Ou Info Quotidien à l'antenne de CILS FM est de retour à l'antenne pour cette édition des 16 et 17 août. Édition inaugurale dans nos nouveaux locaux de l'école Victor Brodeur à Esquimalt. Mon nom est Alexis Gagnon. Je vous accompagne au cours de la prochaine heure d'information. Nous allons débuter avec les revues de presse du jour et enchaîner plus tard dans l'émission avec la chronique du jour. J'aurai le plaisir de m'entretenir avec Marie-Hélène Bourret de la récente décision du gouvernement de John Horgan d'interdire la chasse aux trophées d'ours grizzly dans la province. Bonne émission à tous. Vous écoutez l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien à l'antenne du 107.9 FM. Mon nom est Alexis Gagnon. Voici votre revue de presse internationale. On débute dans les colonnes du média indépendant Mediapart à l'adresse mediapart.fr. Au moins 20 morts dans une attaque terroriste au Burkina Faso. Un groupe d'assaillants probablement lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique a attaqué un restaurant de la capitale Ouagadougou, peut-on lire dans cet article signé par le journaliste Thomas Cantaloub. Les forces de sécurité burkinabé ont mis fin lundi 14 août au matin à l'attaque d'un restaurant de Ouagadougou qui a fait 20 morts, dont les deux assaillants et une dizaines de blessés selon le dernier bilan provisoire. D'après le ministre de la Communication du Burkina Faso, il s'agit d'une opération terroriste dont tout porte à croire qu'elle serait l'œuvre de djihadistes liés au réseau d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, même si cette attaque n'a pas encore été revendiquée. Cet article était publié en date du 14 août. Je tenais à vous le signaler, c'est sous le titre « Au moins 20 morts dans une attaque terroriste au Burkina Faso ». On va se transporter maintenant dans le fil de l'agence France Presse. Le secrétaire général de l'ONU appelle à se lever contre le racisme et la xénophobie. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé le monde mercredi à se lever contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme ou l'islamophobie en réponse à une question sur le débat qui secoue les États-Unis après des propos controversés de Donald Trump. Interrogé lors d'un point de presse sur ce qu'il pensait des déclarations du président américain renvoyant dos à dos des groupuscules suprémacistes blancs et des manifestants antiracistes, Antonio Guterres a répondu qu'il ne commentait pas ce que disent les chef d'État. Mais, a-t-il poursuivi, j'affirme des principes, le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme ou l'islamophobie empoisonnent nos sociétés et il est absolument essentiel pour nous tous de nous lever contre eux partout et tout le temps, a-t-il ajouté. Donc le secrétaire général de l'ONU qui revient en filigrane sur les récents événements de Charlottesville en Virginie, événements tragiques qui sont survenus le week-end dernier. Donc c'est ce sujet justement qu'on va poursuivre dans cette revue de presse internationale. Dans le journal Le Monde, à l'adresse lemonde.fr, Charlottesville, Donald Trump trahit les valeurs américaines en louvoyant avec l'extrême droite. C'est une revue de presse proposée par le journal Le Monde. Vous la trouverez sur la page d'accueil du quotidien français. La consternation est générale dans la presse américaine à en croire les gros titres mercredi 16 août après les dernières déclarations de Donald Trump sur les violences de Charlottesville. Cette ville de Virginie a été le théâtre d'affrontements entre des partisans de l'extrême droite et des contre-manifestants antiracistes. Les violences ont dégénéré le 12 août avec la mort d'une manifestante antiraciste écrasée par une voiture qui était conduite par un jeune homme proche des néo-nazis. Alors, ces déclarations qui ont fait bondir la presse américaine et les médias du monde entier, ce sont celles qu'a faites Donald Trump à la Trump Tower mardi 15 août à New York. Il a affirmé qu'il y avait des torts des deux côtés chez les manifestants. Donc, il a cherché à minimiser les torts des manifestants néo-nazis. Donc, vous trouverez cet article dans le portail du journal Le Monde à l'adresse lemonde.fr. Charlottesville, Donald Trump trahit les valeurs américaines en louvoyant avec l'extrême droite. Donc, c'est une revue de presse proposée par le journal Le Monde, une revue de presse des médias et publications américaines. Il y a d'autres titres à ce sujet, donc dans le journal Le Monde, je vous les signale rapidement. Après Charlottesville, Donald Trump ménage l'extrême droite et provoque un tollé. Ça, c'est un autre article signé cette fois par le correspondant du Monde à Washington, Gilles Paris. Autrement, dans le fil de Reuters, cette fois, Trump critiqué à l'étranger pour ses propos sur Charlottesville. C'est en date du 16 août dans le fil de l'agence Reuters. On va parler de la crise des migrants en mer Méditerranée. À présent, on revient dans les pages du journal Le Monde, dans le cahier international. Plusieurs ONG suspendent le sauvetage de migrants en Méditerranée. La décision de Médecins sans frontières, Save the Children et CI, donc trois ONG concernées, fait suite à l'interdiction pour les navires étrangers de se rapprocher de la Libye. Le 10 août, peut-on lire dans cet article du journal Le Monde, Tripoli, la capitale de Libye, a annoncé la création de sa propre zone de recherche et de sauvetage au large de ses eaux territoriales. Jusqu'ici, les ONG, les organisations non gouvernementales, pouvaient patrouiller jusqu'à 12 000, soit 22 kilomètres, des côtes libyennes, la limite des eaux territoriales admise au niveau international. Donc la Libye qui freine le travail de plusieurs ONG visant à secourir les migrants échoués en mer Méditerranée. Vous aurez ça dans le journal Le Monde, dans le cahier international. On va se transporter du côté de Ouest-France, un grand quotidien français que l'on trouve à l'adresse westfrance.fr. Algérie, le premier ministre limogé au bout de seulement 3 mois. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a mis fin mardi aux fonctions du premier ministre Tebboune et nommé pour le remplacer Ahmed Ouahia, jusqu'ici chef du cabinet du chef de l'État. Donc ce dernier dirigera le gouvernement pour la quatrième fois depuis 1995. Alors Abdelmadjid Tebboune, celui qui a été remercié ou congédié si vous préférez, a été nommé premier ministre le 24 mai dernier dans la foulée d'élections législatives remportées par le Front de Libération Nationale, le FLN, le parti qui est au pouvoir en Algérie depuis l'indépendance en 1962. Donc un nouveau premier ministre en Algérie, celui qui vient d'être congédié, était en poste depuis seulement 3 mois. On va se transporter du côté de France 24 à l'adresse france24.com. Le désarmement des FARC est officiellement terminé. Donc, vous le devinez, on est en Amérique du Sud, plus particulièrement en Colombie. Le processus de désarmement des FARC a officiellement pris fin mardi. Le président Juan Manuel Santos a déclaré à cette occasion que le conflit avec la guérilla marxiste était terminé. Le combat des guérilleros devrait désormais se poursuivre au Congrès. Alors, c'est le détail de cet adieu aux armes que donne ici le journaliste de France 24. Je vous rappelle le titre, « Le désarmement des FARC est officiellement terminé ». Et ça met fin, du moins officiellement, à des décennies de guerre civile en Colombie. On revient dans les pages de Mediapart pour citer cette controverse entourant le gouvernement d'Édouard Philippe et du président Emmanuel Macron en France. Deux ministres louent la villa en Corse d'un repris de justice. C'est une révélation de Mediapart en date du 16 août. C'est signé par la journaliste Hélène Constanti. Sébastien Lecornu et Gérald Darmanin ont loué une villa dans la région ajaccienne en Corse. Pas de chance, cette villa est celle de l'ancien président de la Chambre de commerce d'Ajaccio, en Corse, et celui-ci avait été condamné pour trafic de drogue international. Donc le gouvernement d'Emmanuel Macron, à nouveau dans l'eau chaude, deux ministres du premier ministre Édouard Philippe sont sur la sellette suite à cette location de villa, location faite auprès d'un ancien condamné pour trafic de drogue international. Vous aurez cette nouvelle dans le portail de Mediapart. Cette actualité a été reprise par tous les médias en France. Elle a fait le buzz, comme on dit là-bas, en cette journée du 16 août. Une nouvelle un petit peu insolite, mais néanmoins symptomatique des tensions qui opposent le Japon à la Chine. C'est une nouvelle qu'on retrouve dans le portail de RFI à l'adresse rfi.fr. Le Japon soupçonne des Chinois de braconner ses coraux. Le Japon a démarré mercredi 16 août une étude sur le corail précieux au large de l'île méridionale de Kyushu. Tokyo soupçonne les ressortissants chinois d'en braconner pour l'utiliser dans des bijoux. L'agence des pêches japonaise entend mener cette enquête sur l'état du corail jusqu'à début septembre via des observations effectuées à l'aide d'une caméra sous-marine, a déclaré un de ses responsables à l'agence France-Presse, l'AFP. Alors, nouvelle un petit peu insolite, je le disais, mais néanmoins symptomatique des tensions entre le Japon et la Chine. Et pour finir, revenons sur le sujet des migrants et de la crise des migrants qui touche l'Europe depuis quelques années. On a un autre article dans le portail Mediapart qui mérite d'être mentionné dans cette revue de presse. C'est un article qui est écrit par Cécile Andrzejewski. C'est dans le portail Mediapart, je le disais. C'est à propos de l'esclavage éventuel de tous ces migrants qui arrivent en Europe. Je vous indique le titre tout de suite. Le risque d'esclavage moderne est au plus haut en Europe, selon une récente étude. Le risque d'esclavage moderne augmente dans l'Union européenne, peut-on lire. C'est le constat d'une étude publiée par une société d'analyse de risques américaine. En cause, la vulnérabilité des migrants qui arrivent sur les côtes européennes et leur exploitation par des trafiquants. De toutes les régions du monde, c'est l'Union européenne qui a enregistré la plus forte hausse de recours à l'esclavage moderne en 2017. D'après une étude parue le 10 août, le risque d'esclavage moderne concernerait désormais 20 pays dans l'Union européenne. Cet esclavage moderne a augmenté dans les trois quarts des 28 pays membres de l'Union européenne l'année dernière, affirme cette enquête publiée par l'agence Verisk Maplecroft, une société américaine d'analyse de risque. Si vous voulez approfondir, c'est dans le portail Mediapart, je rappelle le titre, « Le risque d'esclavage moderne est au plus haut en Europe, selon une récente étude ». Voilà qui complète cette revue de presse internationale dans l'édition des 16 et 17 août. Merci d'être à l'écoute. Dans un instant, nous allons poursuivre les revues de presse avec les nouvelles nationales. À tout de suite. Vous êtes dans l'émission Le Débrief à l'antenne du 107.9 FM dans la grande région de Victoria. Nous allons passer maintenant aux nouvelles canadiennes en débutant tout de suite dans le fil de la presse canadienne. Cet article a attiré notre attention. Ottawa conclut une entente sur l'éducation avec des Premières Nations. Le gouvernement fédéral annonce avoir conclu une entente sur l'autonomie gouvernementale en matière d'éducation avec 23 Premières Nations de l'Ontario, un accord qu'il qualifie d'historique. L'entente avec les Premières Nations Anishinaabe de l'Ontario, qui conclut plus de 20 ans de négociations, reconnaît que celles-ci ont le contrôle de l'éducation de la prématernelle à la 12e année dans leur réserve. Cette entente permet également aux Premières Nations d'obtenir le contrôle administratif sur le financement de l'éducation post-secondaire. La ministre des Affaires autochtones et du Nord, Carolyn Bennett, dans le cabinet de Justin Trudeau, a affirmé que cette entente démontre un engagement à faire progresser l'autonomie des Premières Nations et met la table pour inspirer le changement transformationnel dans les collectivités Anishinaabek partout en Ontario. Vous trouverez cette nouvelle dans le fil de la presse canadienne. On va se déplacer du côté du journal Le Devoir. Le chroniqueur culturel Stéphane Baillargeon signe un article intitulé « Ottawa demande au CRTC de réviser les licences des diffuseurs ». C'est en date du 15 août. C'est une nouvelle fort importante pour la sphère médiatique au Canada. Je vous lis quelques lignes de cet article signé Stéphane Baillargeon. « Ottawa demande au CRTC de réviser ses décisions concernant les licences accordées aux grands diffuseurs privés de télévision du Canada. Le renversement exceptionnel se produit à la suite des critiques de groupes professionnels du secteur qui ont témoigné aux audiences nationales cette année. Le nœud du litige porte notamment sur le financement d'émissions originales. Nous demandons au CRTC de réviser les décisions prises pour les licences des grands groupes autant français, québécois, Bell, Corus et V, qu'en anglais, Bell, Corus et Rogers, a expliqué au journal Le Devoir la ministre du patrimoine canadien, Mélanie Joly, responsable du secteur des communications. Cette décision, a-t-elle poursuivi, concerne des chaînes comme TVA, Historia ou Série Plus en français ou CTV et Movie Network en anglais. La volte-face du gouvernement ne concerne pas Radio-Canada, précise cet article du journal Le Devoir. La licence du diffuseur public Radio-Canada sera étudiée plus tard au cours des prochains mois. Donc, c'est Ottawa qui demande au CRTC de retourner à la planche à dessin, de refaire ses devoirs et de réviser les licences des télédiffuseurs. C'est en date du 15 août dans le journal Le Devoir. On revient dans le fil de la presse canadienne. Ottawa a approuvé des projets et la suite appartient aux pétrolières, selon le ministre Carr. Le ministre fédéral des Ressources naturelles, Jim Carr, a défendu mardi la capacité de son gouvernement à faire progresser des projets majeurs d'exploitation de matières premières, disant qu'Ottawa a approuvé plusieurs propositions et qu'il revient maintenant aux entreprises de démarrer les travaux. Le ministre Carr a pris la parole à la conclusion d'une rencontre fédérale-provinciale sur l'énergie au Nouveau-Brunswick au cours de la laquelle le projet Énergie Est de la pétrolière TransCanada a été l'un des sujets de discussion non officiels. Il s'est passé presque une année depuis l'effondrement de la première série d'audiences de l'Office national de l'énergie sur le projet Énergie Est, rappelle cet article de la presse canadienne, après que des manifestants eurent perturbé une première audience à Montréal et accusé les commissaires d'un parti pris envers les entreprises pétrolières. En effet, cette esclandre avait fait grand bruit dans la population et dans les médias, bien sûr, l'année dernière. Alors, le ministre Carr, qui tient à préciser qu'il n'en tient qu'aux pétrolières maintenant d'aller de l'avant si les projets ont été approuvés. C'est en date du 15 août dans le fil de la presse canadienne. Ottawa a approuvé des projets et la suite appartient aux pétrolières. C'est le titre de l'article. Un peu plus bas dans le fil de la presse canadienne, et c'est un écho des événements survenus à Charlottesville aux États-Unis, vous allez comprendre, des conservateurs pressés de se distancier du média controversé The Rebel au Canada. Des politiciens et des entreprises font face à de la pression pour se distancier du média controversé The Rebel relativement à sa couverture des manifestations explosives en Virginie en fin de semaine dernière. Certains détracteurs affirment que le traitement par le site The Rebel des nouvelles à propos des violences de Charlottesville reflète son soutien persistant à l'extrême droite en Amérique du Nord. Le cofondateur du site The Rebel, Ezra Levant, a tenté d'éclipser ses critiques, mais ses efforts n'ont pas empêché l'un de ses fondateurs du média, Brian Lilly, de quitter l'organisation en début de semaine. Alors, ce média indépendant, mais très, très marqué à droite, voire sur l'extrême droite du spectre politique, The Rebel, donc qui fait face à des pressions grandissantes et plusieurs membres du Parti conservateur cherchent à se distancier à présent de cette publication. Vous aurez ça dans le fil de la presse canadienne. Des conservateurs pressés de se distancier du média controversé The Rebel. Et toujours dans le fil de la presse canadienne, un article signé par le journaliste Liam Casey, l'Université de Toronto refuse d'accueillir des nationalistes blancs canadiens. Alors, on reste un petit peu dans le même sujet, vous le constatez. L'Université de Toronto a refusé à un groupe canadien de nationalistes blancs l'accès à son campus. Le Parti nationaliste canadien, comme il s'appelle, indique sur sa page Facebook qu'il tiendra un rassemblement à l'Université de Toronto le jeudi 14 septembre en soirée pour discuter du mouvement nationaliste au Canada et de l'avenir de notre pays, entre guillemets. La porte-parole de l'Université de Toronto, Althea Blackburn-Evans, a cependant précisé mercredi que le groupe en question avait été prévenu qu'il ne serait pas le bienvenu sur le campus de l'Université de Toronto. Donc vous aurez cette nouvelle sur le fil de la presse canadienne. Et pour clore cette revue de presse dans le fil de la presse canadienne, course au NPD, la mort de sa sœur force Charlie Angus à prendre une pause. Le candidat à la direction du nouveau Parti démocratique, le NPD, Charlie Angus, prend une pause pour des raisons familiales. Le député fédéral de Timmins Bay James a annoncé mardi soir la mort de sa sœur Kathleen Angus après une longue maladie. Charlie Angus avait manqué le dernier débat des candidats à Victoria, ici même en Colombie-Britannique, le 2 août dernier pour rester au chevet de sa sœur. Il avait pris une pause d'une dizaine de jours. Cette fois, il ne s'accordera que quelques jours de congé pour organiser les funérailles et y assister. Il devrait donc reprendre sa campagne dans quelques jours, précise cet article de la presse canadienne. Un petit incident un peu insolite mentionné également dans le fil de la presse canadienne. Tour du CN à Toronto, la fameuse tour emblématique de Toronto. Un incendie qui sévissait dans le mât de la tour a été éteint, c'est ce que nous apprend la presse canadienne. Les pompiers ont éteint l'incendie qui a éclaté tôt mercredi matin sur l'emblématique tour du CN à Toronto. Les services d'incendie de Toronto ont indiqué sur Twitter un peu avant 7h15 ce matin que les flammes au mât principal de l'antenne de télécommunication de la tour du CN avaient été éteintes et que les pompiers descendaient. Et on va se tourner vers le Québec pour clore cette revue de presse nationale. Un article intitulé « Les libéraux défendent Éric Tétrault attaqué sur son intégrité ». Alors, il est ici question de politique provinciale. Éric Tétrault, c'est un candidat à l'élection partielle dans la circonscription Louis-Hébert. Il est dans l'eau chaude, si vous voulez. Il aurait été mêlé à certains événements lors du mandat du précédent premier ministre, ancien premier ministre Jean-Charles. Je vous lis quelques lignes de cet article qui paraît également dans le fil de la presse canadienne. Les ministres libéraux ont dû défendre mercredi leur candidat dans l'élection complémentaire à venir dans la circonscription de Louis-Hébert, Éric Tétrault, qui est attaqué sur son intégrité. Éric Tétrault se trouvait dans la loge de Zino Zambito avec l'ex-ministre Nathalie Normandeau à un concert de Céline Dion en 2008, un événement révélé par la commission Charbonneau il y a quelques années. Éric Tétrault, qui était dans les officines libérales à l'époque, s'était aussi apparemment fait donner des billets par Zambito, l'ex-entrepreneur en construction condamné pour fraude. Alors, si vous voulez approfondir dans ce sujet, c'est dans le fil de la presse canadienne. Les libéraux défendent Éric Tétrault attaqué sur son intégrité. C'est une nouvelle provinciale qui nous vient du Québec. Et finalement, pour refermer cette revue de presse nationale à propos de la crise migratoire qui s'est déclarée au Québec suite à l'afflux important de réfugiés en provenance des États-Unis, je vous recommande cet article intitulé « Quand la communauté haïtienne se mobilise ». C'est un article qui paraît dans le média indépendant Ricochet à l'adresse ricochet.media. C'est signé par la journaliste Raphaël Corbeil en date du 11 août. Je vous lis quelques lignes de ce long article qui a été rédigé sur le terrain au Stade olympique, là où se sont rassemblés de nombreux réfugiés. L'afflux important des réfugiés haïtiens fuyant les États-Unis de Donald Trump a ému plus d'une personne à Montréal, rapporte la journaliste de Ricochet. Collecte de dons, bénévolat, nourriture adaptée et offre d'hébergement. Depuis des jours, des citoyens d'origine haïtienne se sentent interpellés et cherchent à venir en aide aux nouveaux arrivants. On sait bien sûr, entre parenthèses, que Montréal compte une importante communauté haïtienne, une communauté qui est très importante et implantée à Montréal depuis plusieurs décennies. Je vous lis quelques lignes un peu plus loin dans cet article. Dans les dernières semaines, le nombre de migrants traversant la frontière canado-américaine a triplé au Québec. La très grande majorité d'entre eux sont des Haïtiens, dont le statut de protection accordé par le gouvernement Obama sera abrogé à la fin de l'année 2017 par la nouvelle administration de Donald Trump. Outre le tremblement de terre de 2010, plusieurs ont connu des persécutions et des menaces de mort en Haïti, dans leur pays. Haïti est un État défaillant, selon plusieurs observateurs et plusieurs membres, bien sûr, de la communauté haïtienne de Montréal. Donc, un article sur le terrain rédigé par la journaliste Raphaël Corbeil. C'est dans le média indépendant Ricochet à l'adresse ricochet.media. Et c'est sur cette actualité qu'on va refermer la revue de presse nationale pour cette édition des 16 et 17 août. Merci d'écouter Le Débrief, votre rendez-vous info à l'antenne de CILS-FM. Vous êtes toujours dans l'émission Le Débrief, édition des 16 et 17 août. Alexis Gagnon en votre compagnie. Merci d'être à l'écoute de votre radio communautaire francophone. Nous allons poursuivre cette émission avec une petite nouvelle à thématique francophone. Les Acadiens ont célébré leur fête nationale. En effet, le 15 août, c'est la fête nationale en Acadie. On a un article dans le fil de la presse canadienne en cette journée de la fête nationale des Acadiens. L'une des figures de proue de cette communauté a tenu à lancer un message sans équivoque, peut-on lire dans cet article. En entrevue avec la presse canadienne mardi après-midi, le président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, Kevin Arsenault, a souligné qu'il était primordial que l'identité acadienne cesse d'être mise de l'avant seulement une fois par an. Kevin Arsenault a poursuivi en disant qu'il était grand temps de réfléchir à une façon de garder l'esprit du 15 août vivant 365 jours par année. Du même souffle, il a invité les Acadiens à rompre avec leur acadianité à temps partiel. Selon le président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, il existe plusieurs façons de parvenir à ce but. Il a alors mentionné qu'il suffit pour les Acadiens de parler français aussi souvent que possible, y compris en réclamant des services dans cette langue. Kevin Arsenault a ajouté qu'il est également possible pour les Acadiens d'y arriver en s'instruisant au sein du réseau scolaire francophone et en se distrayant en lisant des livres en français ou encore en assistant à des prestations offertes par des artistes francophones. Kevin Arsenault a conclu cette interview avec la presse canadienne en encourageant les Acadiens à participer aux nombreuses activités offertes en ce 15 août et d'en profiter pour s'amuser tout en réfléchissant. C'est sûr qu'il y a toujours une composante de célébration, a-t-il commenté, mais c'est aussi un moment pour faire un bilan des acquis, pour voir où nous en sommes rendus par rapport à nos droits et pour déterminer ce qui reste à faire, a-t-il déclaré. Donc voilà, c'était votre nouvelle à thématique francophone dans cette édition des 16 et 17 août. Les Acadiens célèbrent leur fête nationale. Bonne fête aux Acadiens, avec un petit peu de retard. On va se transporter maintenant dans la revue de presse provinciale, les nouvelles de Colombie-Britannique. On débute avec le sujet de l'heure, si vous voulez, les incendies en Colombie-Britannique. Nous avons un article signé dans le journal La Presse par la journaliste Marissa Grogugé. Et cet article s'intitule « Incendies en Colombie-Britannique ». Ça ressemble un peu à une atmosphère de guerre. Une Québécoise résidant en Colombie-Britannique fait partie des milliers de sinistrés forcés de quitter leur logement depuis plusieurs semaines en raison des incendies de forêt qui font toujours rage dans cette région, indique la journaliste du journal La Presse. Par ailleurs, poursuit-elle, le Québec a envoyé hier de nouveaux renforts sur place afin de maîtriser ces incendies. Cela fait maintenant 18 jours que Noëlle McFarlane, une Québécoise installée en Colombie-Britannique depuis maintenant 17 ans, loge avec son mari dans un motel de Cache Creek, une bourgade située à 2 heures de route de leur village de Clinton, dans le sud de la province de Colombie-Britannique. Dans cette région, l'incendie de forêt de Elephant Hill s'étend actuellement sur près de 170 000 hectares, soit 1700 km². Il s'agit du deuxième incendie en importance encore actif sur le territoire britanno-colombien en cet été 2017, peut-on lire dans cet article de La Presse. Ça fait des semaines qu'il s'est déclenché et il brûle toujours, a précisé cette Québécoise installée en Colombie-Britannique, Noëlle McFarlane. Donc c'est un peu un portrait de cette Québécoise britanno-colombienne d'adoption dans cet article proposé par le journal La Presse. Je vous rappelle le titre, Incendie en Colombie-Britannique, ça ressemble un peu à une atmosphère de guerre. Vous trouverez ça dans l'édition du 16 août. Et à propos de ces renforts envoyés par le Québec en Colombie-Britannique, on a également un article dans le portail britanno-colombien de Radio-Canada. 40 pompiers québécois s'envolent pour combattre les feux de forêt en Colombie-Britannique. Une quarantaine de pompiers forestiers québécois ont pris le chemin de la Colombie-Britannique en début de semaine pour combattre les incendies de forêt qui y font toujours rage. Ces nouveaux effectifs s'ajoutent aux 40 pompiers québécois que la Sopfeu, une organisation québécoise, a déployés le 4 août dernier. Donc c'est une deuxième vague de pompiers forestiers québécois venant en aide à la Colombie-Britannique dans le cadre des incendies de forêt qui sévissent cet été. Patrick Lapointe fait partie de l'équipe qui s'est envolée mardi, peut-on lire dans cet article de Radio-Canada, les techniques utilisées sur le terrain font partie des plus grandes différences entre le Québec et la Colombie-Britannique, selon lui. Nous avons la chance au Québec d'avoir beaucoup d'eau, a-t-il dit. Quand nous allons en Colombie-Britannique, nous suivons des stratégies qui nous sont demandées. Nous faisons souvent appel aux outils manuels, à la machinerie lourde pour faire des lignes d'arrêt mécanisées. C'est très différent. Au Québec, rappelle Patrick Lapointe, les terrains sont beaucoup plus plats, alors qu'en Colombie-Britannique, les montagnes, évidemment, changent beaucoup la donne. Et cet article de Radio-Canada rappelle que l'Ontario a également apporté son aide à la Colombie-Britannique au cours des dernières semaines en envoyant des pompiers forestiers. Vous trouverez cet article sur le portail britanno-colombien de Radio-Canada. 40 pompiers québécois s'envolent pour combattre les feux de forêt en Colombie-Britannique. Et cette revue de presse britanno-colombienne se poursuit dans l'édition des 16 et 17 août. Le salaire minimum atteindra 11,35 $ en Colombie-Britannique. Un autre article aperçu pour vous dans le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique. Le gouvernement néo-démocrate de John Horgan réitère l'engagement libéral de hausser le salaire minimum à 11,35 $ l'heure à partir du 15 septembre 2017 en Colombie-Britannique. Le salaire des employés à pourboire passera à 10,10 $. Et cet article le rappelle que la Colombie-Britannique avait annoncé la hausse du salaire minimum de 50 cents en avril dernier, mais les dispositions législatives n'avaient pas été adoptées en raison de l'élection provinciale. Selon le ministre du Travail, Harry Baines, la Colombie-Britannique aura le troisième plus haut salaire minimum au Canada, peut-on lire. Le ministre du Travail a ajouté que cette mesure aidera près de 94 000 travailleurs dans la province. On va se déplacer du côté de la presse anglophone britanno-colombienne tout de suite dans le portail du Times Colonist à l'adresse timecolonist.com. Évidemment, c'est notre quotidien local ici à Victoria. Quelques articles ont été repérés pour vous. Tout d'abord, une autorité de réglementation municipale a statué que les restrictions qui étaient imposées aux visiteurs de l'immeuble de logement social de la rue Johnson ne sont pas valables ou sont plutôt illégales, si vous préférez. Donc, cette autorité municipale a statué que les restrictions sur les invités étaient non conformes. Et donc, les habitants de ce logement social sur la rue Johnson auront maintenant la possibilité d'inviter des amis et des membres de leur famille à rester pour la nuit. Rappelons que cet immeuble de la rue Johnson a accueilli de nombreux sans-abri qui avaient élu domicile de façon temporaire à Tent City. Tent City, c'était un campement de fortune à Victoria qui regroupait l'été dernier, donc en 2016, plusieurs centaines de personnes sans-abri à Victoria. Ça avait vraiment défrayé l'actualité au cours de cette période. Et justement, par la suite, ils avaient été logés dans cet immeuble de la rue Johnson. On va continuer cette exploration du Times Colonist en date du 15 et 16 août. On apprend qu'une entreprise de développement immobilier a l'intention de bâtir une tour à Victoria. Ce serait la plus haute tour de Victoria, 29 étages. Elle est en projet, donc ça n'est pas encore confirmé. C'est au conditionnel. Et le permis a été déposé à la ville, à la municipalité de Victoria. Il demande une dérogation au règlement qui régit la taille des tours d'habitation et des tours à bureaux. Donc, cette tour ferait 29 étages et serait bâtie par une entreprise qui s'appelle Bossa Properties. Vous trouverez ça dans le Times Colonist sous la plume du journaliste Andrew Duffy. Et dernière nouvelle aperçue pour vous dans le Times Colonist, on apprend que le V2V, le V2V, le traversier qui relie Victoria à Vancouver, d'où son nom V2V, ce fameux traversier plutôt récréatif, plutôt pour les touristes, qui effectue une liaison entre Victoria et Vancouver, c'est tout nouveau, ça date de seulement quelques mois. Eh bien, ce traversier, apprend-on dans le Times Colonist, est à l'arrêt pour cause d'ennuis mécaniques. Alors, ce traversier doit recevoir des réparations mécaniques en raison de bris qui sont survenus récemment. Alors, on estime que cette interruption du service entre Victoria et Vancouver pour ce traversier appelé le V2V se poursuivra sur environ 3 à 4 semaines, donc un mois d'arrêt pour le traversier V2V. On apprend ça dans le Times Colonist en date du 15 août. Et on peut peut-être terminer en mentionnant cette nouvelle qui paraît dans le TAI, notre portail d'information indépendant ici même à Victoria, de TAI.ca, qui nous parle de l'interdiction de la chasse aux grizzlies qui a été décidée par le gouvernement de John Horgan. Et c'est justement le sujet de notre conversation du jour avec notre chroniqueuse régulière Marie-Hélène Bourret. Dans un instant, nous parlons donc de cette interdiction. Dans quelques instants, restez à l'écoute du 107.9 FM. De retour dans l'émission Le Débrief, édition des 16 et 17 août. Merci d'être à l'écoute, chers auditeurs. Nous entrons dans la zone éditoriale. On va faire un peu d'analyse et d'interprétation de l'actualité en compagnie de notre chroniqueuse fidèle, Marie-Hélène Bourret. Bonjour, chère Marie-Hélène.
Bonjour, Alexis.
Ravi de te retrouver au micro du Débrief qui a fait une petite pause en raison du déménagement.
Alors, on est dans notre première chronique, toi et moi, officielle dans les nouveaux bureaux, dans les nouveaux studios.
Voilà, donc chronique inaugurée à l'école Victor Brodeur, ici dans Esquimalt. On va lancer ça de ce pas. De quoi parle-t-on aujourd'hui?
On va parler d'ours grizzly, en fait, de cette interdiction de chasse aux trophées que le gouvernement du NPD veut mettre de l'avant.
Le nouveau gouvernement de John Horgan, oui. Il n'a pas perdu de temps.
Non, il y a une chance qu'il n'a pas perdu de temps parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup comment on les appelle, les colombo-britichiens.
Les britanno-colombiens.
Les britanno-colombiens. Donc, les britanno-colombiens sont vraiment touchés dans une
étude.
Ils
sont concernés et ils sont assez unanimes aussi.
Oui, parce que dans une étude qui a été faite en février dernier, il y avait 80% des Canadiens qui ont été recensés, donc qui comme étant contre la chasse aux trophées pour l'ours grizzly. Et il y avait 90% des britanno-colombiens qui étaient contre la chasse aux grizzlies. Donc, c'est une presque majorité totale. C'est presque l'entière totalité des britanno-colombiens qui sont contre. Donc, il a agi rapidement.
Il n'y a pas photo, comme on dit chez nos cousins français. C'est vraiment quasi unanime.
Ouais.
Et pour vous référer à cette actualité, chers auditeurs, si vous le désirez, vous pouvez vous rendre sur le site du TAI, de TAI.ca, et trouver l'article « NDP Government to End Grizzly Bear Trophy Hunting ». Ça, c'est l'article numéro 1 sur lequel on se base. Ensuite, il y a aussi le papier paru dans le portail de CBC, donc Radio-Canada, côté anglophone. « BC to End Grizzly Bear Trophy Hunting After This Season ». Alors, « After This Season », c'est pas encore...
Alors, la chasse aux grizzly ouvrait aujourd'hui, je crois.
Aujourd'hui, 16 août.
Oui, et l'interdiction vient en application le 30 novembre, qui est à la fin de la chasse au grizzly. Pourquoi ça finit le 30 novembre, la chasse au grizzly? Ben, c'est le temps de la presque hibernation. Les petites mamans sont enceintes et se trouvent un petit terrier là, pour aller se coucher.
Alors, on peut peut-être citer le ministre des Forêts, Doug Donaldson, qui est cité dans ce papier du TAI. « By bringing trophy hunting of grizzlies to an end, we're delivering on our commitment to British Columbians. » Donc, ça répond, c'est l'écho d'une promesse qui avait été faite durant la campagne électorale du printemps dernier. Alors, pourquoi, finalement, mettons fin à cette pratique?
Ben, en fait, il y a 15 000 ours grizzlies qui ont été recensés. En fait, c'est une estimation, parce qu'évidemment, on peut pas les compter du porte-à-porte. Hein. Alors, une estimation de 15 000 grizzlies partout en Colombie-Britannique. On sait que depuis les années 1970, il y a eu plus de 12 000 grizzlies qui ont été tués. Il y a trois espèces d'ours bruns. Donc, l'ours grizzly, c'est une sous-espèce d'ours brun qui sont en danger. Et trois de ces sous-espèces-là sont en Colombie-Britannique. Donc, c'est sûr que ça va aider parce que il faut quand même le dire, il y a 30% des étrangers qui font la chasse. 30% des chasseurs au grizzly, ce sont des étrangers.
Alors, que cherchent-ils, ces gens-là? Pourquoi tiennent-ils? Est-ce qu'il y a un prestige?
C'est un éditorial, hein? Je peux me laisser aller.
Ben, oui, on peut mettre un peu de couleur.
Ben, je crois que, premièrement, c'est des chasses qui sont très chères. Il y a donc une espèce d'aura de richesse keto, parce que ça te prend un guide, tu as besoin d'un campement, t'as des rabatteurs, t'as toutes sortes d'affaires, donc ça te coûte très cher. Donc, c'est un prestige qui a rapport à l'argent. C'est la chasse, autre que la chasse pour se nourrir, la chasse aux trophées, c'est vraiment, et c'est mon interprétation, mais c'est vraiment le pouvoir de l'homme sur la nature.
Oui.
Je suis plus fort qu'un grizzly. Regarde comme je suis fort.
Alors, on affiche la tête de la victime. Dans
sa peau, ses pattes même seulement. C'est vraiment une espèce de maladie, je pense, psychologique, littéralement. Et je fais pas de blague quand je dis ça. Quand t'es obligé, pour avoir une valeur personnelle, de tuer un être vivant. Encore là, je ne parle pas de la chasse pour oui. la nourriture, là. Ça, c'est quelque chose de totalement différent. Mais la chasse au trophée, là, c'est pour avoir une valeur personnelle, se sentir différent, se sentir, je vais le dire platement, là, se sentir un homme.
Se sentir puissant.
Il y a des femmes qui font de la chasse au trophée aussi, là.
Oui, on a vu sur les réseaux sociaux ouais. des photos de femmes posant fièrement à côté de girafes, lions, etc.
Ouais, ouais.
etc.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est généralement,
majoritairement,
on peut avancer sans trop ouais. craindre de se tromper que c'est une espèce de produit de la testostérone
ouais.
et du machisme. En tout cas,
ouais.
c'est un bien curieux phénomène qui se perpétue encore en 2017, ouais. étonnamment. Alors, la chasse aux trophées a été bannie ici
ouais.
en Colombie-Britannique.
Cependant,
oui. Alors, il y a une petite astérisque là.
Ouais, c'est que on permet toujours la chasse pour la nourriture. Alors, les Premières Nations font la chasse pour la nourriture, mais lorsqu'ils tuent un animal, ils utilisent tout. Alors,
oui.
ils n'utilisent pas juste la peau. Hein. Ils vont utiliser les tendons, ils vont utiliser les os, ils vont utiliser la viande, évidemment, puisqu'ils vont la manger.
On dit que c'est une viande...
très noire.
Non seulement comestible, mais bonne.
C'est une bonne... Si on tue l'animal à ce temps-ci de l'année, par exemple,
oui.
il a mangé, il s'est engraissé parce qu'il y a une espèce de semi-hibernation qui se fait pour les grizzlies. Donc, il est gras, il a mangé du poisson, il a mangé des baies. Alors, la viande est très savoureuse.
Alors, si l'espèce n'était pas en danger, on pourrait faire une chronique gastronomique, toi et moi.
Mais c'est pas moi qui la ferais.
Non.
Non,
parce que peut-être que l'intérêt serait pas là, même si l'espèce n'était pas
ouais.
du tout...
Ben, en fait, ces plantigrades-là sont très proches de l'humain aussi. Hein. Plantigrades, ils marchent sur les pieds facilement.
Oui.
On voit souvent des photos de grizzly marchant. C'est peut-être l'ours avec le panda qui est celui qui marche plus facilement.
Alors revenons sur
oui.
cette permission qui est
oui.
donnée à ceux qui veulent chasser.
C'est un problème.
Pour la nourriture. Alors ça ouvre la porte à quoi?
Ben, ça ouvre la porte à qu'on continue à faire pour le trophée.
Oui.
En
catimini.
En catimini. Alors il est possible de se prendre un guide. De faire la chasse, on abat une femelle, on laisse les deux petits dans la nature, on prend la peau, la tête, les pattes, peu importe ce qu'on a besoin, on les fait traiter ici au Canada, parce qu'on peut pas envoyer ça comme ça sans les traiter, hein, et puis on se les fait envoyer par la poste. Et,
oui.
et la carcasse reste là à pourrir et il y a personne qui se nourrit sauf les vautours.
C'est effectivement ce que certains groupes
environnementalistes.
De défense de l'environnement
ouais.
ont soulevé. Ils applaudissent d'abord, mais avec
un bémol.
Voilà, avec un bémol, en avertissant que justement il y a un trou dans la
ouais,
loi.
Ouais.
Alors on verra. L'engagement du NPD, de John Horgan, justement, est-ce qu'il est prêt à déployer des gardes-chasse? Est-ce qu'il est prêt à, justement, surveiller les pratiques
ouais.
pour que ce moratoire ou cette interdiction ne mène pas, justement, à un statu quo?
Mais en fait, il va consulter...
une aggravation de
ouais.
la situation.
Ben, M. Horgan a dit qu'il allait consulter les groupes environnementaux, mais aussi les gens des Premières Nations. Chez les Premières Nations, l'ours grizzly... est un ours important dans la spiritualité. Il est considéré, c'est un grand esprit.
Et comment?
C'est vraiment, pour eux, il n'y a pas juste l'idée de la chasse et de la nourriture et de l'environnement. Il y a aussi la protection de cette croyance
oui.
en quelque chose de plus grand dans l'ours grizzly.
Il n'y a pas juste les ours esprits, là, les ours carmodis, comme on les appelle,
ouais.
je crois, qui ont ce statut-là.
Ouais.
Les corneilles, les corbeaux,
ouais. Ouais.
Tous les animaux. Et il y en a qui sont évidemment...
Les animaux qui représentent les clans. Alors, on sait
Oui.
que parmi les Premières Nations, il y a des clans et il y a des totems. Hein?
Oui.
C'est, le totem étant l'esprit et non pas le mât, parce que sinon c'est un mât totem. Donc, ces esprits-là ont un rôle d'identification pour le peuple en question,
voilà.
De guide. On veut devenir avoir les qualités de cet animal-là. C'est un peu comme si chez un autre peuple animiste, par exemple, je sais pas moi.
On retrouve ça partout
ouais.
dans les cultures de chasseurs-cueilleurs
partout
sur la planète.
Tous les groupes animistes qui croient que il y a un esprit qui a une âme à l'intérieur de l'animal.
Oui.
Alors, de tuer l'animal, il doit y avoir un cérémoniel, il doit y avoir un remerciement qui
oui.
se fait. Et la façon dont la chasse au trophée se fait, ben, c'est qu'on considère comme c'est une denrée jetable, c'est quelque chose dont on le tue, puis
oui.
on prend ce dont on a besoin. Un peu ce qu'on fait avec les éléphants, par exemple, ou les rhinocéros.
Oui. Ça peut être utilisé aussi même pour revendre comme capital,
oui.
comme bien.
Oui.
Échangeable, marchandable.
Oui.
Pour que les auditeurs ne soient pas confus, on peut préciser que la chasse pour subsistance, ça ne concerne pas
non.
que les Premières Nations. Il y a aussi des gens qui vivent dans les régions
oui.
éloignées
oui.
et qui veulent s'adonner à cette pratique, pourront le faire aussi.
Absolument.
Voilà, donc on suivra ce dossier. Est-ce que c'est cosmétique seulement? Est-ce que c'est seulement une façade? Ou est-ce qu'effectivement, la chasse au trophée va prendre fin pour de bon? C'est ce qu'on souhaite. Un dernier mot en terminant, Marie-Hélène?
Ben, je crois que le gouvernement Horgan en est à un point où il doit prouver sa crédibilité. Il faut qu'il ne tombe pas dans les mêmes comment je dirais labyrinthes tortueux du gouvernement précédent
oui.
où on annonce quelque chose et on tourne.
Voilà. Alors le premier pas a été fait. On
oui.
sait que le gouvernement précédent de Christy Clark était
subventionné.
On va dire le parti recevait des dons du lobby des chasseurs
canadiens et américains. $60,000.
A-t-on pu lire justement dans cet article du TAI que l'on vous recommande chaudement? Alors, le gouvernement actuel a fait le premier pas. Maintenant,
ouais.
il faut voir si les mesures de surveillance seront...
Ben, il faut continuer la pression.
Adéquate.
Il faut continuer la pression. Il y a encore des pétitions qui circulent en ligne. Vous pouvez prendre contact avec des groupes environnementaux, avec Dogwood Initiative, dont on parle souvent. On
peut Notamment.
David Suzuki Foundation. Alors.
Raincoast Conservation Foundation et bien d'autres.
Et bien d'autres, oui.
Alors voilà, on peut commencer cette documentation en lisant les articles sur CBC et de TAI, tout simplement. Marie-Hélène Bourret, grand merci pour ce commentaire sur la récente décision du gouvernement Horgan de bannir la chasse au trophée de grizzly.
Et je reviendrai vous donner une recette de quinoa la prochaine fois.
Voilà, c'est à suivre. Merci Marie-Hélène, à bientôt. Encore merci à Marie-Hélène Bourret pour ce regard porté sur la décision du gouvernement de John Horgan d'interdire la chasse au trophée aux ours grizzly dans la province de Colombie-Britannique. Merci encore Marie-Hélène, on se retrouve prochainement pour d'autres chroniques. Voilà, c'est tout pour cette édition du Débrief. Je mentionne au passage que le jazz que nous avons entendu aujourd'hui provenait d'un album récent de Beth McKenna, une néo-écossaise qui sera justement à l'antenne de CILS prochainement dans une émission ce soir on jazz. Pas cette semaine, la semaine suivante, ce soir on jazz, une émission animée par Kevin Simonard. Là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée si vous nous écoutez en rediffusion. On se retrouve demain, même heure, même fréquence. À très bientôt.
Ici Louis Gagnon. J'écoute CILS 107,9 FM de chez moi en Italie sur le CILSFM.ca.
Vous aimeriez en connaître plus sur l'histoire personnelle des grands compositeurs classiques? L'influence de la modernisation des instruments dans la musique de 1600 à aujourd'hui? Ne manquez pas Histoire classique avec Louise Alpin, diffusée 3 fois par semaine sur les ondes de CISFM.
Vous écoutez CIS FM.
Thank you.